Bonjour et bienvenue dans Sous le Capot, le podcast dédié aux supporters et au mouvement ultra. Bienvenue dans la deuxième partie de notre premier épisode d'introduction avec Nicolas Ourcade. Nicolas Ourcade, pour rappel, est sociologue à l'École Centrale de Lyon et spécialisé sur les questions du supporterisme en France. Dans notre premier épisode, que vous pouvez évidemment retrouver sur les plateformes d'écoute, nous avons fait une première partie d'introduction sur le sujet du supporterisme. Qu'est-ce que le mouvement ultra ? Quel est le rôle des groupes de supporters dans les clubs ? On a recontextualisé aussi la question d'un point de vue historique. Et pour cette deuxième partie, nous allons évoquer le sujet de la politisation des tribunes avec plusieurs angles différents. Est-ce que les supporters sont d'extrême droite ? Est-ce que certains groupes politiques ou groupuscules ont déjà tenté de promouvoir leur idéologie au sein même des tribunes ? Bref, toutes ces questions auxquelles nous allons répondre dans cette deuxième partie de l'épisode 1 de Sous le Capot, à retrouver dès maintenant. Je vous propose qu'on passe à une deuxième partie, qui est le sujet de la politisation des ultras, ou alors la politisation ou la politisation, donc on va en discuter un petit peu. et du coup, moi, je voulais commencer par casser une idée un petit peu reçue, que vous avez notamment cassé un petit peu déjà dans des publications que vous avez faites, qui est « les ultras sont tous d'extrême droite ». Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
Alors là, les sociologues n'ont pas toujours des réponses définitives, mais si la question est « est-ce que les ultras sont tous d'extrême droite ?», la réponse est non. Je connais au moins 3 supporters ultras qui ne sont pas d'extrême droite. Non, mais blague à part, pourquoi on a l'image que les supporters ultras sont d'extrême droite ? Parce que à une époque, dans les années 80, le supporterisme extrême est devenu un problème. Pourquoi ? Parce que d'une part, il y avait une augmentation très forte de la violence, et d'autre part, parce qu'on avait beaucoup plus peur de ces violences, parce qu'il y a eu des drames marquants, notamment le plus connu, celui de 1985, au stade Wesel à Bruxelles, hein, où il y a 39 morts avant la finale tant attendue de la Coupe des Champions entre Liverpool et la Juventus de Turin de Michel Platini. Et là, c'est en direct à la télé. Moi, j'étais adolescent, tu vis ça en direct, c'est extrêmement marquant. Et donc, le hooliganisme qui faisait commencer déjà à faire peur aux amateurs de football depuis les années 70-80, parce que les supporters anglais violents créaient des exactions lors de chacun de leurs déplacements, là, ça devient vraiment une panique très très forte. Et donc, au même moment, la violence des supporters augmente, et on en a beaucoup plus peur qu'avant. Par exemple, pour illustrer ça, dans les années 60-70, quand il y a des bombes agricoles en Corse avant les matchs de Bastia notamment, ça fait partie du folklore qui dit que c'est sympa, on est en Corse, il y a de la ferveur, etc. Les bombes agricoles dans les années 90, c'est du hooliganisme. Finalement, il y a un changement de considération sur le supporterisme et il devient un problème social à partir des années 80-90 parce que il y a plus de violence et parce qu'on en a encore plus peur qu'avant. Et dans les années 80, les supporters violents les plus connus, c'était les hooligans anglais, qui n'étaient pas tous d'extrême droite, mais dont les plus visibles étaient ostensiblement d'extrême droite. En plus, à la même époque, le hooliganisme s'implante notamment au Parc des Princes, notamment dans le Club de Boulogne, où une bonne partie des hooligans ne sont pas d'extrême droite. Tous les hooligans du PSG n'étaient pas d'extrême droite, y compris à Boulogne, mais une partie l'était de manière ostensible. Et donc, du coup, dans l'esprit du grand public, supporters radicaux égale extrême droite. Comme en plus, dans les années 80, il y a certains supporters ultra qui font des cris de singe, qui ont des emblèmes un peu limites, voire extrêmement limites, et qui parfois sont ouvertement d'extrême droite, cette image s'est collée aux supporters ultra. Et finalement, dans les années 90, les supporters ultra eux-mêmes se sont aperçus que ça craignait vraiment. Et on a vu plusieurs choses. On a vu d'abord une réaction des autorités qui n'ont plus toléré certains symboles d'extrême droite. On a pu voir des croix gammées au début des années 90 dans plusieurs stades français. Je veux dire, ça a été poursuivi. Les autorités ont créé des lois pour pénaliser l'exhibition de ce type d'emblème dans les stades et elles ont empêché toute exhibition de ça. On a fait beaucoup plus attention à certains slogans. Et les supporters eux-mêmes, les groupes de supporters ultra, se sont rendus compte que s'ils continuaient notamment à faire des cris de singe pour insulter les joueurs adverses en disant oui c'est du folklore, c'est rigolo, on n'est pas raciste, c'est juste pour les déstabiliser, ça cassait complètement leur image. Et donc il y a une prise de conscience qui a abouti à deux choses. D'une part, dans les années 90, la grande majorité des groupes ultra ont dit on est apolitique, on rassemble des supporters de toute obédience et on veut surtout pas avoir de manifestation d'extrême droite, pour être bien clair que nous on n'est pas des fachos et on n'est pas comme certains groupes de hooligans. Et d'autres groupes sont allés encore plus loin, notamment d'abord les Winners à Marseille, mais ensuite d'autres groupes en France, pour dire ben, non seulement on n'est pas d'extrême droite, mais on va lutter contre le racisme dans les stades et on va être antiraciste. Et donc aujourd'hui, si vous regardez vraiment les stades, ce que vous voyez fondamentalement, c'est des manifestations antiracistes collectives. Par chance, en France, on n'a pas la situation que peut avoir l'Espagne ou l'Italie, avec encore des cris de singe collectifs. En France, ça n'existe plus. Ça n'empêche pas des dérapages individuels. Ça n'empêche pas que certains supporters n'en pensent pas moins. Mais aujourd'hui, du fait de l'action des pouvoirs publics et des clubs et de la prise de conscience des groupes de supporters ultra, il n'y a plus de manifestations collectives. Et donc, la plupart des groupes ultra sont apolitiques ou antiracistes. Et parmi les groupes ultra apolitiques, on peut distinguer schématiquement ceux qui sont complètement apolitiques parce qu'il y a vraiment des gens de toute obédience ou des gens qui s'en foutent de la politique et que c'est vraiment pas un sujet. Et d'autres groupes dans lesquels il peut y avoir une minorité active plus marquée politiquement, notamment à l'extrême droite. Donc, il faut être attentif à ça parce que certaines idées peuvent se propager dans ces tribunes-là. Mais il faut en sorte de pas rendre ça trop public parce que sinon, ça les discréditerait comme supporters.
Ouais, justement, il y avait deux exemples qui ressortaient beaucoup, qui étaient du coup les Boulogne Boys à Paris et les Bad Guns à Lyon, qui à la base étaient des groupes orientés extrême droite, ou en tout cas très très à droite. Et vous expliquez dans une de vos publications qu'à un moment, ils ont eu le choix entre s'agrandir et s'apolitiser, du coup de montrer qu'ils étaient vraiment apolitiques, ou rester un groupe d'élite, pour le coup politisé. Et l'exemple des Bad Guns était très intéressant parce que du coup eux ils ont fait le choix d'accueillir beaucoup plus de monde et justement d'omettre complètement les idées politiques qu'il pouvait y avoir dans ce groupe de supporters là.
Alors déjà sur les Boulogne Boys, une nuance, parce que le problème des Boulogne Boys c'était que c'était le groupe ultra de la tribune Boulogne, donc le groupe le plus visible, le groupe dont on connaissait le nom, mais c'était pas le groupe le plus radical. Très clairement les Boulogne Boys n'étaient pas les plus violents de la tribune, c'était les bandes de hooligans, ils étaient assurément pas les plus extrême droite. Et l'histoire des Boulogne Boys montre qu'à certaines périodes le directoire du groupe était absolument pas d'extrême droite et n'avait pas ces idées là. Il y a eu d'autres périodes où au contraire certains étaient un peu plus radicaux, mais en tout cas l'extrémisme de droite à Boulogne était beaucoup plus d'une part dans des bandes de hooligans, d'autre part dans des bandes informelles qui profitaient du stade pour faire passer certaines idées. Effectivement, on entendait pas mal de slogans politiques à Boulogne.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, du coup il y a eu une généralisation de l'idée générale qu'il y avait sur ce groupe là.
Ouais, mais c'est toute la difficulté de comprendre Boulogne, parce que Boulogne aussi, si on fait une petite parenthèse, c'est une tribune très compliquée parce qu'il y avait à la fois des hooligans, des supporters de COB classiques un peu à l'anglaise, je viens là pour chanter, et des ultras, les Boulogne Boys. Et au niveau politique, il y avait des gens orientés à l'extrême droite et d'autres pas du tout. Et donc, ça a toujours été un maelstrom un peu compliqué avec différentes bandes. Et donc, à Boulogne, oui, il y avait de l'extrême droite. Elle était dominante parce que c'est eux qui imposaient finalement une couleur politique à la tribune. Mais elle n'était pas forcément dominante quantitativement parce que beaucoup de supporters se reconnaissaient pas complètement dans cette identité. Donc, on ne peut ni nier l'identité d'extrême droite de Boulogne, puisque c'était un élément très très fort de cette tribune-là, ouais, ni généraliser en disant tous les gens de Boulogne étaient d'extrême droite. Ensuite, l'exemple lyonnais, il est super intéressant parce qu'effectivement les Bad Guns, à un moment dans les années 90, ils sont très très marqués à l'extrême droite, ils vont jusqu'à exhiber des croix gammées dans leur tribune, et arrive un moment où ils sont très minoritaires et très peu nombreux parce que trop de violence et trop d'extrémistes de droite. Et dans les années 2000, au moment où l'OL se développe, alors c'est schématique ce que je vais dire, mais Jean-Michel Aulas comprend que sans grand public c'est pas possible, il a besoin d'un grand public, et donc il a besoin d'associations de supporters, et c'est l'un des premiers présidents à dire oui, les associations de supporters sont importantes, oui elles sont le 12e homme, oui elles sont un sorte de syndicat des supporters, et moi je dois dialoguer avec elles pour faire en sorte que tout se passe bien. Et donc quelque part le club a favorisé le développement de ce qu'on appelle le COB Virage Nord, c'est-à-dire le fait que dans le Virage Nord à Lyon il y a de très nombreux supporters qui se rassemblent pour supporter l'Olympique Lyonnais, en essayant de masquer autant que possible cette image qui collait à la peau de cette tribune d'extrémisme de droite et de violence. Et donc ça a été très longtemps une réussite, jusqu'à ces dernières années où il y a eu plusieurs dérapages dans les deux virages lyonnais qui ont montré que c'était plus compliqué. Souvent, si vous regardez les réseaux sociaux, vous lisez « les Bad Guns, c'est des fachos ». C'est là aussi, un peu comme pour Boulogne, complètement caricatural. Vous avez au Bad Guns des gens qui ne sont pas d'extrême droite, qui vont absolument pas dans le stade pour propager de telles idées, mais pour soutenir l'Olympique lyonnais. Mais il est certain aussi qu'au sein des Bad Guns, il y a encore des gens qui sont marqués à l'extrême droite, il y a des proximités avec les ultras sourds du Real de Madrid. Donc la difficulté avec les groupes ultras, alors si je dis aux Badgones qu'ils sont un groupe ultra, ça va pas leur plaire parce qu'ils ont toujours été très attentifs au fait qu'ils étaient pas véritablement ultras, mais qui amalgamaient différentes influences italiennes, anglaises et puis fondamentalement lyonnaises. Mais en tout cas, la difficulté pour appréhender les groupes ultras, c'est que c'est rarement monolithique. Je veux dire, une autre tribune dont on a beaucoup parlé récemment, qui est la Populaire Sud de Nice. Oui, il y a des gens d'extrême droite dans la Populaire Sud de Nice, y compris d'extrême droite radicale. Mais réduire la Populaire Sud de Nice à cette frange-là, c'est faux. Et même parmi les membres actifs de la Populaire Sud ou des Badgones, il peut y avoir des gens qui se reconnaissent pas du tout dans ces idées. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile d'appréhender de l'extérieur ces groupes par des observateurs qui sont pas dans la tribune, parce que ils ont envie de raccourcis, ils ont envie de dire mais telle tribune c'est tous des fachos, en fait non, mais par contre ne pas voir que dans certaines tribunes il peut y avoir du militantisme politique actif, c'est masquer une partie de la réalité de celle-ci.
J'avais une question toujours en lien avec la politisation des tribunes justement, mais plus d'actualité, parce que j'écoutais l'autre jour une chronique de Clément Viktorovitch, qui est professeur de rhétorique que vous connaissez peut-être, qui expliquait le concept rhétorique de la fenêtre d'Overton, qui est en gros de proposer une idée extrême, affirmer dans un second temps une idée qui est encore plus extrême pour que justement la première idée qui était extrême se normalise plus ou moins. Et il utilisait évidemment l'exemple de Zemmour et Le Pen en ce moment, où justement il expliquait que Zemmour rendait les propos de Le Pen plus acceptables, moins choquants, et que du coup ça lui permettait de faire passer ses idées. Tout ça pour montrer qu'en fait aujourd'hui il y a une espèce d'extrême droitisation de la société et du débat public. Est-ce que cette extrême droitisation du débat public, ça peut faire du stade un lieu d'expression encore plus important, ou est-ce que justement ça la politise ?
Moi, je dirais non. Je dirais non, parce qu'il n'y a pas besoin du fait que la société se droitise ou s'extrême droitise, dites ça comme vous voulez, pour que le stade soit un lieu politique. Le stade est un lieu politique, puisque c'est un lieu où se rassemblent toutes les franges de la population, où les inégalités transparaissent dans les tribunes de manière très claire. C'est à la fois un lieu de rassemblement, où on est tous pour l'OM, par exemple, mais c'est un lieu où certains paient moins cher que d'autres, où certains sont invités et ont droit au champagne et d'autres payent mais n'ont pas droit de la bière, les inégalités sociales apparaissent et le pouvoir apparaît. Et le stade est un lieu où peut être un des lieux du politique aujourd'hui, où certains groupes vont vouloir afficher certaines idées d'extrême droite, mais parfois certaines idées d'extrême gauche aussi. Mais c'est aussi un lieu où on va rendre politique les oppositions internes au monde du football. C'est-à-dire que l'opposition entre dirigeants et supporters devient le foot business contre le foot populaire, ou l'opposition à la Super League devient une opposition à la finance dérégulée dans le monde du football. Donc voilà, il y a une politisation de l'espace stade qui est certaine. Ensuite, sur le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui votent à l'extrême droite aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a des gens d'extrême droite dans les stades, bien évidemment. À partir
oui,
du moment,
comme il y en a d'extrême gauche.
Non, mais à partir du moment où l'extrême droite fait des performances importantes dans les urnes, forcément, dans toute tribune, il y a des gens d'extrême droite. Et voilà, le stade n'est pas étanche par rapport au reste de la société. Par contre, ce qui est important, un des enjeux, c'est que le stade soit pas un lieu de propagation de certaines idées extrêmement radicales, comme certains groupes de supporters ont voulu le faire à certains moments en Angleterre, en Allemagne. Certains ont tenté de le faire au PSG. Mais finalement, pour moi, cette volonté d'entrisme dans les tribunes pour mettre en évidence certaines idées, c'est pas la dimension politique la plus marquante du stade. Parce que si vous prenez l'histoire de la tribune Boulogne, par exemple, à certains moments, certains groupes politisés à l'extérieur du stade ont voulu se servir du stade pour se rendre visible. C'est l'exemple de Serge Ayoub, de Batkin au PSG, mais Serge Ayoub, c'est à la fois quelqu'un qui a marqué l'histoire de la tribune Boulogne, mais c'est pas lui qui a fait le hooliganisme à Paris, et finalement c'est une toute petite partie de l'histoire du COP. Finalement, l'identité politique de Boulogne, elle s'est faite très largement en marge des groupes politiques extérieurs. Si vous voulez, les supporters ont une image un peu souvent de bonnet, et donc on suppose que quand il y a de la politique dans les stades, c'est que forcément ils sont récupérés ou qu'ils sont un peu des marionnettes dirigées par des gens extérieurs. En fait, dans la plupart des situations, les gens qui font de la politique au stade le font en leur nom propre et en assumant certaines idées de nature très différente selon les supporters et les groupes de supporters.
J'avais une dernière question justement sur la question de la politique dans les stades. Dans une de vos publications, vous dites que parfois certains groupes de supporters sont amenés à avoir des comportements alors on va qualifier d'extrême droite, on va faire un raccourci, donc que ce soit sur l'attitude, on peut voir des saluts nazis, alors qu'en vrai, dans la vraie vie, c'est une étude sociologique que vous avez menée, pardon, dans la vraie vie, c'est pas du tout des supporters orientés extrême droite, et ils ont des opinions politiques complètement différentes, mais vous disiez que justement, le contexte du stade les amenait parfois à manifester d'une telle façon que ça peut s'associer à de l'extrême droite.
Alors, je disais ça, mais je disais ça dans un article qui date de 2000, donc ce qui ne rajeunit personne.
Ah, c'est ça.
Et qui renvoie à une situation du début des années 90, où je disais qu'effectivement, moi j'ai vu, quand j'enquêtais dans les tribunes, alors pas des saluts nazis, parce que ça c'est quand même très 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 marqué, mais certains supporters que je connaissais sur la durée par ailleurs, et que je savais ne pas être d'extrême droite, faire des cris de singe contre un joueur adverse pour le déstabiliser. Ces manifestations qu'ils qualifiaient de folkloriques, petit à petit, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ils se sont rendus compte que c'était absolument pas acceptable et que finalement tout n'était pas possible pour discréditer l'équipe adverse ou les supporters adverses. Et donc, alors même qu'eux étaient taxés de fachos et qu'ils voulaient pas être considérés comme des fachos, s'ils se permettaient des cris de singe sur des joueurs noirs adverses, c'était illisible. Et donc, les manifestations que je décrivais, que j'avais vues au début des années 90 et que j'évoquais dans cet article, elles ont petit à petit disparu. On va avoir d'autres types de provocations pour déstabiliser l'équipe adverse, mais des provocations racistes, les seules qui subsistent aujourd'hui sont le fait de gens qui veulent vraiment le faire, ou d'une personne qui, à un moment, dérape complètement, perd le contrôle dans le stade, comme certains supporters ont prétendu l'avoir fait, après avoir fait des saluts nazis récemment.
Merci d'avoir suivi cette deuxième partie de notre premier épisode de Sous le Capot. Alors on le sait, on a un petit peu triché, on vous avait promis de découper cet épisode en deux parties. On a finalement décidé de le diviser en trois parties, donc vous pourrez retrouver la troisième et dernière partie, cette fois c'est promis, de cet épisode dimanche prochain. Et on évoquera cette fois-ci l'aspect sécuritaire causé par le mouvement ultra et par les groupes de supporters. On a vu récemment qu'il y avait eu plusieurs débordements depuis le début de la saison en Ligue 1. Donc on pourra évoquer tous ces aspects-là et revenir aussi sur le rôle social que peuvent jouer les supporters au sein de leur ville et aussi au sein de leurs associations et dans les tribunes. Donc voilà, n'oubliez pas, rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, il y aura un nouvel épisode de Poteau Carré qui sortira vendredi. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et rendez-vous dimanche.